France Culture, il est midi et demi. Le journal Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. 45 milliards pour soutenir les secteurs les plus fragilisés en France. Alors que la récession s'annonce déjà terrible depuis ce matin, le gouvernement présente en Conseil des ministres un nouveau budget de crise. Par ailleurs, le gouvernement s'apprêterait également à mettre fin au 10 juillet à l'état d'urgence sanitaire, mais pourrait néanmoins décider de prolonger certaines dispositions. Après les États-Unis et au lendemain des obsèques de George Floyd, la vague de colère contre le racisme continue à déferler à travers le monde, avec parmi les dernières conséquence de ce vaste mouvement, le déboulonnage des statues d'esclavagistes. Invité de la rédaction d'ici une quinzaine de minutes, Nicole Bacharan, politologue, professeur à Sciences Po et spécialiste des États-Unis. Alors que les derniers chiffres en France comptabilisant le nombre de décès et de cas de contamination au Covid-19 soulèvent désormais l'espoir que l'épidémie ne serait bientôt plus qu'un mauvais souvenir, voici que la crise économique cristallise à présent toutes les peurs. De sorte que face au couperet attendu de la récession, le gouvernement présente depuis ce matin en Conseil des ministres son troisième projet de loi de finances rectificative pour 2020. Après les plus de 400 milliards d'euros de mesures d'urgence prises lors des deux budgets précédents, le soutien public devrait encore grimper de 45 milliards supplémentaires pour aider plusieurs secteurs jugés prioritaires. Marie Vienneau, bonjour.
Bonjour.
Alors on le sait, ce budget inclura notamment les plans d'aide annoncés très récemment pour l'automobile, l'aéronautique, mais aussi le tourisme. Et puis, parce que se profilent déjà faillites et licenciements, d'autres mesures devraient encore venir s'y ajouter, Marie.
Oui, Bercy indique que le bâtiment et les petits commerces ne seront pas oubliés et que ce troisième budget rectificatif les soutiendra aussi. Alors cela pourrait être via des crédits d'exonération de cotisations sociales, une mesure présentée comme une nouveauté inédite de ce projet de loi de finances rectificative la semaine dernière par Gérald Darmanin lors d'une audition au Parlement. Mais on attendra d'avoir le texte entre les mains pour le confirmer. Ce que l'on sait de ce projet de loi, c'est qu'il donne au gouvernement les moyens financiers pour mettre en œuvre son soutien à différents secteurs, qu'il consacre aussi 4,5 milliards aux collectivités locales dont les recettes ont été très affectées. Un mot des montants, quand on parle de 45 milliards supplémentaires, il y a dans ce chiffre aussi bien des crédits que des avances de trésorerie ou des prêts. Donc le montant à retenir, si on veut vraiment se rendre compte du coût de ce troisième plan pour les finances publiques, c'est plutôt 13 milliards d'euros en plus, dont 5 milliards pour le chômage partiel. Alors 13 milliards, ça n'est pas rien. Pour comparer, c'est plus que le budget annuel du ministère de l'écologie et des mobilités, mais des secteurs se sentent malgré tout oubliés et le disent, notamment le secteur ferroviaire et l'agriculture.
Et puis c'est dans ce contexte, Marie, que l'on a appris par ailleurs ce matin que le Haut Conseil pour les finances publiques s'inquiétait, lui, de ce que le gouvernement ait pu sous-évaluer d'une part les dépenses prévues pour faire face à la crise et à l'inverse, minimiser d'autre part la perte de recettes attendue.
Oui, le Haut Conseil des finances publiques est un organisme indépendant du gouvernement et du Parlement, composé d'experts en économie et en finances publiques. Il donne son avis sur tous les projets de loi de finances. L'avis rendu ce matin valide les hypothèses macroéconomiques retenues par le gouvernement, notamment la baisse de PIB de 11% en 2020, mais il est plus critique sur l'évaluation du coût des mesures de soutien inscrites dans le projet de loi. Toutes celles qui ont été annoncées dernièrement n'ont pas été traduites dans ce projet, écrit le Haut Conseil, qui trouve le gouvernement assez peu prudent quand il considère qu'aucune des mesures de trésorerie, c'est-à-dire les prêts, les reports de cotisations, ne deviendra de la dépense réelle en 2020. Si on prend les prêts garantis par l'État, par exemple, le gouvernement anticipe que ce dispositif ne coûtera rien en 2020. Or, il suffirait qu'une seule des entreprises qui a emprunté avec la garantie de l'État fasse faillite pour que l'État doive rembourser à sa place. C'est donc une hypothèse très optimiste, d'autant que le montant de ces prêts accordés pourra monter jusqu'à 327 milliards d'euros. C'est donc l'essence même de la politique de soutien du gouvernement en ce moment.
Merci Marie Vienneau. Alors on le voit, l'accent est aujourd'hui mis sur des secteurs considérés comme des marqueurs forts de l'économie qui concernent par ailleurs beaucoup d'emplois. L'occasion aussi d'envoyer un signal positif pour soutenir la confiance des entrepreneurs comme des ménages. Car si en France, les dépenses des ménages se sont taries pendant le confinement, obligeant fabricants et distributeurs à stocker et puiser dans leur trésorerie pour payer leurs charges fixes, nombreux sont ceux à espérer désormais un retour de la consommation ou quand une relance de la demande serait synonyme de reprise d'activité pour les entreprises. Et c'est ainsi par exemple que le ministre de l'économie Bruno Le Maire s'est dit ouvert hier à des solutions nouvelles comme par exemple la création de chèques ciblés pour aider les ménages les plus en difficulté. Il faut dire que le retour de la consommation serait aussi synonyme de rentrée d'argent pour l'État. N'oublions pas que la TVA pèse aujourd'hui près de 45% de ses recettes fiscales. Reste que la montée attendue du chômage couplée au contexte global de forte incertitude continue de peser fortement sur les comportements d'achat. Enfin, outre donc ces plans d'aide, le gouvernement est aujourd'hui contraint d'aggraver un peu plus encore ses prévisions économiques pour cette année. Il table désormais sur une récession de moins 11%, soit 3 points de plus que la baisse du PIB anticipée il y a encore seulement quelques semaines. Une anticipation corroborée d'ailleurs par les dernières prévisions de l'OCDE publiées elle ce matin et qui table sur une contraction de l'économie mondiale, cette fois-ci de 6% pour l'année 2020 et même un peu plus de 7,5% dans l'éventualité d'une seconde vague épidémique. Alors on l'a dit parce que l'épidémie serait aujourd'hui contrôlée en France, le gouvernement s'apprêterait à mettre un terme à l'état d'urgence sanitaire mis en place le 23 mars dernier. En l'occurrence, ce régime d'exception ne serait pas prolongé au-delà du 10 juillet. Sauf que selon la désormais célèbre rhétorique du « en même temps », un nouveau projet de loi examiné hier en Conseil d'État et présenté ce matin au Conseil des ministres permettrait en réalité de prolonger certaines dispositions. Pierre Neveu, bonjour.
Bonjour Thomas.
En clair, Pierre, le gouvernement pourrait décider de restreindre les libertés bien au-delà du 10 juillet sur une période possible de 4 mois.
Il n'y a pas si longtemps encore, le gouvernement évoquait la possibilité de prolonger l'état d'urgence jusqu'à la fin de l'été. Mais depuis, les conditions sanitaires se sont améliorées. La circulation du virus est sous contrôle. Moins de 1000 malades hospitalisés en réanimation. Laissons les gens vivre, disait il y a quelques jours le professeur Delfraissy, président du Conseil scientifique. Le projet de loi qui est présenté en ce moment au Conseil des ministres va donc mettre un terme à cet état d'exception, l'état d'urgence sanitaire, critiqué par les défenseurs des libertés, Ligue des droits de l'homme, avocats, parti de gauche, mais parce qu'il y a toujours un risque de rebond de l'épidémie, eh bien le gouvernement ne peut envisager un retour à la normale. Des restrictions de liberté sont donc inscrites dans ce projet de loi. Fermeture de certains lieux accueillant du public, interdiction de se déplacer ou de se réunir sur la voie publique, un recours à l'isolement si nécessaire. En somme, ce texte est un état d'urgence prolongé qui ne dit pas son nom. Il sera soumis à l'examen des députés dans une semaine avant d'être présenté aux sénateurs. Ces nouvelles dispositions prendront effet à partir de la mi-juillet pour une période de 4 mois. Cela nous amène au 10 novembre prochain. Nous serons peut-être alors sous la menace d'un rebond de l'épidémie, ce qui laisserait au gouvernement la possibilité de recourir par décret à de nouvelles mesures de reconfinement et donc à un nouvel état d'urgence sanitaire.
Merci Pierre Neveu. C'était le 3 octobre 2019, ce matin-là, un agent de la direction du renseignement de la préfecture de police, Michael Harpon, tuait à l'arme blanche 4 de ses collègues avant d'être abattu. Et pour examiner les dysfonctionnements ayant conduit à cette tuerie, une commission d'enquête parlementaire avait été créée. 8 mois plus tard, voilà que son rapport a été examiné ce matin à huis clos. Antoine Maret, bonjour.
Bonjour.
Alors ce rapport, Antoine, est en réalité enrichi d'une trentaine environ de propositions, un véritable arsenal de mesures destinées à répondre aux failles de sécurité de la préfecture de police.
Oui, car les failles dans cette affaire, il y en a, parce que, comme le note la commission, la prise en compte du risque terroriste était jusqu'au 3 octobre dernier tournée vers l'appréhension de la radicalisation comme un phénomène extérieur à la préfecture de police et non comme une menace de vulnérabilité interne. Et pourtant, des signes d'alerte, il y en avait. Des indices de radicalisation de Michael Harpon après sa conversion à l'islam, sa pratique religieuse devient de plus en plus dure, y compris sur son lieu de travail. Il refuse de serrer la main à ses collègues féminines avant d'être rappelé à l'ordre par ses supérieurs hiérarchiques. En 2015, il se félicite de l'attentat contre Charlie Hebdo, avant de finalement présenter ses excuses. Cet incident ne donne pas lieu à un signalement officiel. Et c'est l'un des problèmes de la direction du renseignement de la préfecture de police soulevé par la commission. C'est un petit service avec 800 agents, tous habilités au secret défense. Il y règne une culture d'esprit de famille, notamment au service informatique où travaillait Michael Harpon. On y règle donc les problèmes en interne. On lave son linge sale en famille en quelque sorte. La première proposition est de confier à la Direction générale de la sécurité intérieure et au renseignement interne désarmer le rôle de chef de file des recrutements au sein des services de renseignement. Depuis octobre dernier, des procédures ont été mises en place par la préfecture de police pour que les signalements soient systématiques et ensuite évalués. La commission préconise également d'intensifier les efforts et les formations au sein des services de sécurité sur ces sujets.
Merci Antoine Marette. De victime à prévenu, hier trois membres des forces de l'ordre ont été renvoyés devant la justice, accusés d'avoir menti pour couvrir l'un des leurs, coupable de violence à Calais contre un bénévole britannique, membre d'une ONG. Les trois fonctionnaires seront jugés en correctionnel pour faux en écriture. Et l'un d'entre eux, en l'occurrence le brigadier chef pour violence par personne dépositaire de l'autorité publique. Quant à l'homme qui était venu en aide aux migrants, il a lui été blanchi des violences dont l'accusaient les trois CRS. 12 000 personnes, selon SOS Racisme, étaient rassemblées hier soir à la manifestation parisienne en hommage à George Floyd, un rassemblement solennel soutenu par de nombreuses associations, mais aussi des syndicats et plusieurs leaders politiques de la gauche et des Verts. Un peu plus tôt dans la journée, Édouard Philippe avait lui cherché à calmer cette polémique dans un contexte de grande émotion, en appelant notamment au respect et à la confiance à l'égard de la police, mais aussi à l'exigence vis-à-vis des forces de l'ordre. George Floyd, Big George, comme aimait à l'appeler ses proches, ce doux géant dont la stature près de 2 mètres n'aura pas empêché un policier de l'étouffer en s'agenouillant sur son cou, repose lui désormais à Houston aux côtés de sa mère dont il avait le surnom Sissi tatoué sur la poitrine hier. Entre larmes et espoir, ses obsèques auront comme attendu mêlé tout à la fois les hommages comme les appels enflammés à s'attaquer enfin à ce racisme qui blesse l'âme de l'Amérique. Dans un dernier adieu, l'éloge funèbre retransmis en direct dans des millions de foyers aura ainsi pris des accents de véritable tribune politique, en particulier lorsque le révérend, figure de la lutte pour les droits civiques, a ouvertement accusé Donald Trump de malfaisance, lui reprochant d'encourager les policiers à se croire au-dessus des lois. Donald Trump, d'ailleurs, qui, tout à son obsession de décrocher un second mandat en novembre prochain, n'aura pas eu un mot hier pour George Floyd ou les victimes de violences racistes. Quoi qu'il en soit, voilà 2 semaines maintenant que le calvaire de George Floyd, filmé dans une vidéo devenue virale, suscite donc une mobilisation aux États-Unis inédite depuis la lutte des droits civiques. Et parmi les conséquences de ce vaste mouvement antiraciste qui se répand en réalité partout dans le monde, on trouve notamment le déboulonnage de statues aux États-Unis, mais aussi dans les anciennes puissances coloniales que sont le Royaume-Uni ou la Belgique. Louise Baudet, bonjour.
Bonjour Thomas.
Alors pour commencer, peut-être précisons Louise tout d'abord que ces statues que l'on abat est un mouvement qui n'est pas nouveau en réalité aux États-Unis.
Oui, rappelez-vous, été 2017, à Charlottesville, en Virginie, une femme meurt dans une attaque à la voiture bélier conduite par un néo-nazi qui s'oppose au déboulonnage d'une statue confédérée. Statue d'un général de la Confédération des États du Sud des États-Unis qui défendait l'esclavagisme lors de la guerre de sécession. D'autres monuments sont démolis dans les jours qui suivent en Caroline du Nord, en Floride, en Louisiane ou au Texas. Et ce scénario s'est réédité samedi dernier à Richmond, en Virginie, où la statue de William Carter Wick, un autre général des confédérés, a été mis à terre et tagué lors d'une manifestation contre les violences policières. Et ce mouvement, eh bien, il s'étend évidemment aux anciennes puissances coloniales comme le Royaume-Uni. Spectaculaire déboulonnage dimanche d'une statue de marchand d'esclaves jetée à l'eau à Bristol. Manifestation hier soir à Oxford au pied de la statue d'un magnat minier colonisateur au 19e. À Londres, la municipalité a fait enlever sous les applaudissements l'effigie d'un marchand esclavagiste et une statue de Winston Churchill a été prise pour cible. Et puis, autre ancienne puissance coloniale, la Belgique, où une statue de l'ex-roi Léopold II a été retirée hier d'un square à Anvers après avoir été vandalisée.
Alors on le voit, on déboulonne donc des statues, mais pas seulement Louise, puisque la plateforme de streaming HBO Max vient, elle, de retirer de son catalogue un monument cinématographique, Autant en emporte le vent, signé bien sûr Victor Fleming, sorti en 1939.
Oui, Gone with the Wind, la fresque aux 10 Oscars, chef-d'œuvre du 7e art et plus grosse recette de l'histoire du cinéma. Ce film exprime les préjugés racistes de son époque et il est considéré par de nombreux universitaires comme un relais extrêmement efficace du révisionnisme sudiste. Le long métrage soutient notamment l'idée que lors de la guerre de sécession, les États du Sud se sont battus pour leur indépendance politique menacée par le Nord et non pour le maintien de l'esclavage, ce qui est une contre-vérité historique. HBO Max a donc décidé de le retirer de son catalogue. La plateforme prévoit néanmoins de le remettre en ligne, mais assorti d'une contextualisation afin de resituer l'œuvre dans son époque.
Merci Louise Baudet. On en ajoutera encore que le dictionnaire de référence américain Merriam-Webster va lui modifier sa définition du mot racisme. La vénérable institution qui publie ses dictionnaires depuis 1887 s'est vue suggérer de mieux la caractériser afin de refléter davantage son influence sur les populations visées objet d'une oppression systématique. Puis le patron de Twitter a lui annoncé hier que le 19 juin, la fête américaine qui commémore traditionnellement l'abolition de l'esclavage serait désormais un jour férié pour les salariés de sa société. Et pour continuer d'évoquer toutes ces questions, invité de la rédaction aujourd'hui, Nicole Bacharan, politologue, professeur à Sciences Po et spécialiste des États-Unis. Bonjour madame.
Bonjour, je ne suis plus à Sciences Po, mais ça n'est pas grave.
Très bien, alors ce sera noté. On le sait, l'architecture urbaine est donc aujourd'hui remplie d'anciens héros au passé discutable. Louise Baudet rappelait à l'instant le déboulonnage à l'œuvre donc des statues d'esclavagistes ou de généraux confédérés. Faut-il en retirer les effigies au risque d'effacer l'histoire aussi controversée soit-elle ?
Je pense que surtout, il faut réexaminer l'histoire. L'histoire, c'est pas une science figée et définitive. On doit retravailler l'histoire. Et c'est vrai que dans le sud des États-Unis, moi j'ai vécu très longtemps au Texas, que c'est vraiment le sud profond, il y a eu très longtemps, bien après la guerre de sécession, une forme d'idéalisation de ce qu'a été le sud profond, les grandes plantations et le courage des confédérés pendant la guerre de sécession, courage qui a été réel, mais comme vous l'avez dit, qui était quand même au service du maintien de l'esclavage. Donc c'est vrai que non seulement il faut retravailler sur l'histoire, mais il faut aussi choisir les héros. Quand on met une statue au centre d'une ville, c'est pour honorer un héros. Et il y a toujours d'ailleurs des statues de soldats, de généraux confédérés dans le sud. Il n'y a pas de statue d'esclaves noirs ou de noirs qui se soient libérés de l'esclavage et qui aient ensuite combattu pour leur liberté avec les armées du Nord. Donc c'est pas définitif l'histoire.
Il faut retravailler sur l'histoire, dites-vous. Est-ce que cela signifie, par exemple, que l'une des solutions suggérées à ce débat pourrait être à trouver du côté des programmes scolaires, par exemple ?
Évidemment, il y a les programmes scolaires, mais je pense que programmes scolaires qui dépendent beaucoup des autorités locales aux États-Unis. Et il y a tout un tas de messages qui sont transmis effectivement par les films. La question de Autant n'emporte le vent, elle est passionnante. C'est un très beau film, c'est un classique, mais en même temps, c'est un film de propagande à la gloire du vieux sud esclavagiste où les noirs sont bien contents d'être esclaves, bien passifs, bien gentils. Et quand le Ku Klux Klan débarque, car c'est bien de cela qu'il s'agit, eh bien ce sont des hommes chevaleresques qui défendent l'honneur de leurs femmes. Donc c'est vrai que redonner le contexte qui va avec ce film, il n'est pas question dans tout ce que j'ai besoin de le censurer définitivement, pas du tout. Mais l'accompagner d'un certain contexte me semble très sain.
Est-ce que la lutte contre certains symboles, on le voit, du passé, ne risque pas au fond d'éclipser la question du racisme systémique qui est en réalité la véritable bataille qui se joue actuellement ?
Je pense qu'évidemment c'est très spectaculaire le déboulonnage des statues ou le retrait d'un film d'un catalogue, mais ça fait partie de la remise en cause du racisme. Vous savez, ce qu'il faut quand même reconnaître, c'est qu'après la guerre de sécession, il y a eu une dizaine d'années qu'on a appelé la reconstruction, où véritablement il y a eu une forme d'égalité des droits entre citoyens noirs et blancs dans le sud, mais ensuite ce sont véritablement les suprémacistes qui ont gagné. La ségrégation, c'est un régime de suprémacistes qui a duré presque 100 ans. Donc à ce niveau-là, il est absolument nécessaire de travailler sur tous les éléments du racisme systémique. Et la glorification du sud d'une manière très partial, parce que c'est vrai que les gens ont eu beaucoup de courage, ont beaucoup souffert, mais également ont défendu l'esclavage, eh bien, il me semble que ce travail-là fait partie de la lutte contre le racisme systémique.
Une dernière question, Madame Bacharan. Comment distinguer, au fond, aujourd'hui, une prise de conscience salutaire d'une forme de révisionnisme historique?
Eh bien, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas de recette simple. C'est un travail constant. Ça fait partie des zones de réflexion intellectuelle et publique que l'on doit avoir constamment. D'un côté, regarder bien en face l'histoire et continuer à la travailler pour dire la vérité d'autrefois, ça n'est jamais fini. C'est jamais une tâche achevée. Et réviser l'histoire, ça ne veut pas dire « Ah, il n'y a pas eu de généraux confédérés, il n'y a pas eu de gens très courageux dans le Sud », mais ça veut dire que c'est peut-être pas eux vraiment les héros qu'il faut continuer à saluer. Il y a peut-être d'autres héros que l'on peut également mettre en avant. Donc il faut certainement pas nier, et c'est toujours le risque, nier, réviser, mais il faut continuer à travailler sur l'histoire.
Merci Nicole Bacharan, politologue, je le rappelle, spécialiste des États-Unis, d'avoir répondu à notre invitation. Ses prises de position anticolonialistes et son hostilité, notamment à l'égard des États-Unis, lui avaient valu de nombreuses inimitiés. Le 28 février 1986, alors qu'il rentrait à pied du cinéma avec sa femme sans garde du corps, le premier ministre suédois, Olof Palme, était froidement abattu sur un trottoir gelé du centre de Stockholm. Son meurtrier avait alors réussi à prendre la fuite en portant avec lui l'arme du crime. Ce meurtre, longtemps non élucidé, aura non seulement hanté le royaume scandinave, mais aussi engendré un nombre incalculable de théories. Or, ce matin, plus de 30 ans donc après cet assassinat, eh bien la justice suédoise a décidé de mettre un terme à l'enquête. Pourquoi ? Parce que le ministère public considère que Stig Engström, présent à l'époque sur les lieux du crime et interrogé par la police avant d'être mis hors de cause, est bel et bien l'assassin. Or, l'homme s'étant suicidé en 2000, sa mort met de facto un terme à l'enquête. Les précisions de Frédéric Faux.
Il n'a pas fallu deux minutes pour que le procureur en charge de l'enquête sur la mort d'Olof Palme ne donne le nom du coupable.
Cette personne est Stig Engström, plus connu dans les médias sous le nom de Scandiaman. Comme cette personne est décédée, j'ai décidé de clore l'enquête préliminaire.
Cette affirmation, après 34 ans d'investigation, va laisser beaucoup de Suédois sur leur faim. Ce Scandiaman, mort en 2000, employé d'une compagnie d'assurance, était arrivé parmi les premiers sur les lieux du crime. On savait déjà qu'il aimait les armes, qu'il détestait son premier ministre, et il a toujours fait partie des suspects. Mais les enquêteurs ont repris tous les éléments en leur possession. L'emploi du temps précis de Stig Engström, et ils en sont arrivés à une conclusion. Le tireur ne peut être que lui. Alors que de nombreuses pistes avaient été évoquées, et notamment un lien avec l'Afrique du Sud, dont Olof Palme fustigeait le régime d'apartheid, les enquêteurs affirment n'avoir trouvé aucune preuve de complot, même s'ils n'excluent pas que cela soit possible. La mort d'Olof Palme, figure emblématique de la social-démocratie, avait été un véritable traumatisme pour la Suède, et la recherche du meurtrier une obsession nationale. La désignation d'un coupable suffira-t-elle à apaiser les doutes ? Au vu des premiers commentaires, où certains déplorent déjà l'absence de nouvelles preuves et des conclusions trop hâtives, rien n'est moins sûr.
Au moins 59 personnes ont été tuées hier lors d'une attaque djihadiste par une faction dissidente de Boko Haram dans un village d'éleveurs du nord-est du Nigeria. Une attaque en représailles à l'assassinat de combattants islamistes par la milice d'autodéfense locale formée pour sécuriser le village. Alors on connaît évidemment l'importance aussi grandissante que sanglante de cette insurrection islamiste au Sahel. Or il se trouve que dans un rapport accablant, Claude Guibal, Amnesty International accuse parallèlement les forces de sécurité des pays de la région d'avoir également commis des tueries dans le cadre de la lutte antiterroriste.
Dans tout le Sahel, les mêmes témoignages qui ne font que se multiplier alors que les djihadistes gagnent du terrain. Des villageois qui racontent comment, après chaque attaque terroriste, des hommes en uniforme débarquent dans les villages à la recherche de complices, arrêtent arbitrairement et violemment les hommes, plus particulièrement les jeunes, et notamment ceux qui circulent à moto, le moyen de déplacement privilégié des djihadistes. Certains racontent comment ils sont brutalement embarqués, les coups de feu parfois entendus au loin, les décès inexpliqués en prison ou encore ces disparus que les familles recherchent de postes de police en commissariat sans jamais retrouver leurs traces. Près de 200 personnes, au moins entre février et mars cette année, selon le rapport d'Amnesty International. Une situation qui s'aggrave. Les experts y voient les conséquences de la pression qui se fait sur les forces de sécurité locales, mal équipées, mal encadrées, victimes elles-mêmes des djihadistes, qui leur infligent des pertes très lourdes en attaquant convois ou casernes. Des djihadistes qui savent, eux, se fondre dans les populations locales, dans ces zones reculées et délaissées depuis longtemps par l'État. Ils jouent justement sur leur défiance envers les États centraux, uniquement perçus comme prédateurs et violents, des États avec lesquels le lien de confiance est rompu, un cercle vicieux aggravé par l'absence d'État de droit, le déni et l'impunité des forces de l'ordre dans ces exactions.
Les Burundais étaient sous le choc aujourd'hui encore au surlendemain de la mort soudaine de leur président Pierre Nkurunziza au pouvoir depuis 15 ans. De son côté, le gouvernement ne s'est toujours pas prononcé sur la transition du pouvoir dans un pays, on le rappelle pourtant à l'histoire, marquée par des crises politiques meurtrières et une longue guerre civile. On termine avec un mot du temps encore mitigé, alternant nuages éclaircis au fil de l'après-midi. L'instabilité gagnera le flanc est et des pluies se renforceront en soirée par la Bretagne. Quant au températures, elles afficheront entre 19 et 24 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nathalie Lopez et à 18h, vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.